Et nous allons démarrer une nouvelle semaine ensemble dans les coulisses du Limousin. Nous allons parler d'un univers, l'univers fromager. Nous sommes ici à la ferme des Vergniaux à Puymalsigna en compagnie d'une famille qui nous ouvre ses portes. Pour commencer, c'est vous Yvette Poutard qui nous recevez. Vous allez pouvoir nous raconter cette belle histoire familiale qui remonte à vos parents. Ce sont eux qui ont acheté cette ferme et qui nous venaient de Normandie, je crois.
Oui, c'est exact, en 1963. Et j'avais donc 14 ans, mes parents sont venus acheter cette petite ferme. Et pour nous, c'était difficile de vivre après. C'est pour ça que j'en suis arrivée à faire un élevage de chèvres et puis valoriser le lait et faire du fromage.
Le choix s'est posé quand même, parce que vous travailliez à l'époque, vous étiez dans l'univers hospitalier.
Oui, mais quand mes parents ont pris la retraite, comme j'avais mes bagages agricoles, comme on dit, j'avais donc l'opportunité de réfléchir à dire « je prends pas ». Et ben j'ai pris parce que j'avais trop mal au ventre de laisser l'exploitation que j'avais travaillée pendant toute ma jeunesse, quoi. Et puis je me plais trop ici dans ce milieu avec les pierres, les petits chemins, le calme, les arbres, la tranquillité. Alors on a décidé de faire du fromage, voilà, et agrandir, passer de 3 chèvres à 12 de chèvres et après 30 chèvres et ainsi de suite, quoi.
Mais un tout petit peu plus aujourd'hui, hein.
Un petit peu plus, oui, parce que bon, le temps a passé quand même, il y a presque 30 ans.
Alors, ça reste très familial puisque après vous qui étiez la deuxième génération, il y a la troisième qui a pris la relève.
Voilà, exactement. Mon fils qui a aussi fait ses études et puis des stages en élevage caprin.
Vous avez diversifié du coup les activités puisqu'il y a une partie effectivement production fromagère et puis il y a de la production laitière tout simplement parce qu'avec 600 chèvres au compteur, on a de quoi faire.
Bien sûr que oui. Alors on prend ce que nous avons besoin suivant les marchés en lait pour le transformer et tout le lait de vache est transformé qu'on a appelé notre fromage qui s'appelle le Paysou.
Vous faites des productions spécifiques au Limousin. Alors le Paysou, ça c'est vraiment la marque de chez vous. C'est une marque déposée d'ailleurs.
Oui, on a déposé cette marque parce que je tenais à conserver mon savoir et vraiment le fromage type creusois qui sert aussi à faire le fondu, puis qui est renommé.
Et pour le fromage de chèvre, vous avez la version de la feuille du Limousin.
Oui, on fait partie de la charte du Limousin, puis les tomes fermières du Limousin aussi. On y tient beaucoup parce que je suis dans les premières personnes qui a participé à cette mise en route de cette feuille du Limousin. On y tenait. Puis elle est bien, elle est très bonne, elle est fine, elle est en forme d'une petite goutte d'eau comme la feuille du châtaignier. Elle a quand même beaucoup d'atouts, quoi. Puis sur le plateau de fromage.
Ça fait la différence quand
ça
même.
Ça fait un petit peu de différence, voilà.
Et notre public Limousin sera toujours friand de bons produits de chez nous.
Oh, exactement, oui. Les gens de notre région, quand on fait les marchés, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui viennent au fromage, quoi. Dans d'autres régions, c'est certainement pas comme ça. Puis moi, j'ai ça au bout des doigts. J'ai besoin de fabriquer, je fais un peu moins puisque je suis à la retraite maintenant, mais je donne les coups de main quand il y en a un qui est malade Puis ça me fait plaisir d'aller voir dans ma fromagerie la fabrication et puis palper, toucher, puis en manger aussi.
Deuxième rendez-vous dans l'univers de la production laitière et fromagère que nous découvrons tout au long de cette semaine à la ferme des Vergniaux, du côté de Puymalsigna. Nous sommes avec notre deuxième invité, Damien Poutard, troisième génération dans l'histoire de cette ferme des Vergniaux. Et là, on est à proximité de ce qui fait évidemment une grosse partie du travail, ce sont les chèvres. Elles sont combien là face à nous ?
Là, il y a à peu près 70 chevrettes de première lactation. Bon, mais ça, c'est juste un petit bâtiment parce qu'au total, il y en a entre 600 et 700 chèvres.
C'est un type de chèvre particulier ?
Oui, alors ça, c'est une race croisée en fait parce que les blanches, c'est des sanennes et les marrons, ce sont des alpines. Et ce qui me fait des chèvres un peu crème, quoi.
Ça, ce sont des chèvres qui sont prêtes notamment pour la production ?
Tout à fait, oui. Elles ont mis bas fin septembre, octobre. Et du coup, maintenant, elles sont en pleine production. Elles ont une capacité là, de 3 litres, 3 litres et demi, et c'est très bon.
Alors, ça se passe de l'autre côté, hein, c'est du côté de la traite. Et on va passer entre-temps par ce que vous appelez, vous, la nurserie. Ah, on voit qu'on a des plus petites voix. Donc là, on a baissé en âge. Ce sont des chevrettes qui ont combien ?
Oh, c'est des chevrettes qui sont entre 3 semaines et 1 mois. Hein. Donc c'est vrai que là, elles sont encore au lait. Elle débute aussi un petit peu à commencer à manger un petit peu de paille, un petit peu de concentré, histoire de commencer à s'habituer au changement après, puisque à 2 mois ou à 17 kilos, elles sont sevrées. Plus de
lait. Là, ça veut dire que c'est votre future production de fromage et de lait, hein, qui est là. Hein.
Ah, logiquement, tout à fait. Hein, tout est misé sur les chevrettes. Si on les loupe, c'est la production derrière. Ça fera jamais des productrices.
On va nous passer à l'autre bout de la nurserie. C'est là qu'on va évidemment arriver sur la phase du gros boulot. C'est la fameuse période de traite. Et donc nous voilà quelques mètres plus loin sur la fameuse salle de traite. Donc ça fait partie des évolutions que vous avez mis en place lorsque vous avez repris l'exploitation.
Ah oui, tout à fait, parce que du temps de mes parents, on passait trop de temps à la traite. Ça occupait 2 personnes et même un salarié quasiment à temps complet, parce qu'on mettait 3 heures matin et 3 heures le soir. Et du coup, je suis resté sur le roto, hein, plateforme rotative. Ça permet de traire à peu près 400 chèvres à l'heure. Et ça gagne beaucoup de temps, 3 heures par jour, à une personne.
Alors, on explique grosso modo, c'est un grand manège hein, avec donc différentes cases qui va tourner. Et donc, les chèvres arrivent sur un côté avec tout un système de détecteurs.
Voilà, tout à fait. Les chèvres, elles sont dans un parc d'attente pour commencer. Et puis après, elles ont un petit couloir pour rentrer sur cette plateforme. Une fois que la chèvre est rentrée, elle a eu une petite alimentation automatisée. Le roto, lui, tourne d'une case pour que l'autre chef qui est derrière suive à la queue leu-leu. Et une fois que les 40 places sont pleines, la première chef qui a été branchée, dès qu'elle a fait son premier tour, si elle est traite, elle recule, son cornadier est libéré, elle recule et puis elle repart dans son bâtiment.
Qu'elle se lève de bonne heure. Hein. Pour être traite, c'est pour vous 5h30 saut du lit?
Ouais, disons plutôt 6h moins le quart, oui, et pour que la traite commence à peu près vers les 6h15, 6h20.
Du matin et le soir, deuxième fournée.
Deuxième tournée le soir à peu près 17h.
On l'a dit déjà et on va le répéter, il y a 2 productions ici, lait de vache, lait de chèvre. On a parlé de la chèvre, on va parler de la vache, on va se déplacer puisque ça se passe évidemment sur un autre site. Donc nous voilà cette fois-ci dans une autre salle de traite. Alors là, ça ressemble, on va dire, plus à ce que peut-être le grand public a en tête. La salle de traite pour les vaches, qui a une capacité de...
Capacité de 5 places. C'est seulement un quai, puisque nous n'avons pas un grand effectif vache. Hein, pour l'instant, 18 vaches.
Concrètement, en un mot sur le fonctionnement, on peut mettre en route pour faire une petite démo virtuelle, évidemment, avec les trieuses.
Voilà comment que ça commence. Je lave les mamelles avec une lingette, je traite le premier jet, après je les branche. Le lait est réceptionné dans un bol, puis après, à chaque coup de pompe, ça va directement à la fromagerie.
Il n'y a pas de tank de transfert, c'est directement le tuyau que l'on voit partir ici qui se retrouve dans la salle juste derrière, dans laquelle on va aller ensuite pour nos prochains rendez-vous.
Voilà, de la pompe à lait directement dans leur bac de réserve.
Du producteur directement derrière au transformateur, puis directement au consommateur sur les marchés.
Ah voilà, c'est du produit vraiment de la ferme.
Notre troisième rendez-vous dans les coulisses de la production laitière et fromagère. On va d'ailleurs s'intéresser au fromage à partir de ce troisième rendez-vous avec un nouvel invité. C'est Jean-Luc qui est en plein boulot. On va donc s'immiscer tranquillement. Avant, d'ailleurs, ce que vous êtes en train de faire, il y a eu la récupération du lait, évidemment. 2 systèmes différents, on précise, pour le chèvre et pour la vache.
Voilà. Donc, hier matin, on a perçu du lait de chèvre qu'on a emprisuré à une température de 22 degrés. Alors le lait de chèvre, à savoir qu'on le reçoit, ça a une température à peu près de 27-28 degrés après la traite. Donc nous, on le redescend avec des plaques techniques à 22 degrés. Et là, on l'emprisure avec du petit lait et de la prisure, de la caillette de veau, comme on trouve chez son pharmacien, encore pour les gens qui veulent faire les fromages eux-mêmes. Et après ce processus, on va laisser reposer le lait pendant 24 heures minimum. Donc ce qu'on appelle le caillé. Nous, on l'a pré-égoutté dans des caisses avec un linge et ensuite on le moule. Alors, les quantités, c'est suivant ce qu'on veut comme fromage. Là, par exemple, sur un crottin de chèvre, à savoir qu'il y a à peu près l'équivalent de 60 centilitres de lait. Sur un crottin double, comme on fait là-bas, des petits palets, donc 120 centilitres de lait, etc. Donc plus le fromage est gros, plus il y a du lait.
Donc là, ça veut dire qu'on a des tubes qui font quoi ? Bien 10 cm de hauteur ?
Ouais, on peut en rajouter 10 de plus.
Bon, allez, partons pour 20 cm. Le produit fini, lui, va être beaucoup plus mince une fois que tout cela se sera égoutté. On perd quoi ? Plus de la moitié de la hauteur ?
Les deux tiers, ouais. Les deux tiers, on perd les deux tiers. Demain, donc, ils vont être égouttés. Ça va sur ces 20 cm, il va nous rester à peu près 8 cm. On va les retourner dans le moule et faire un premier salage. À la main, gros sel. Et ils vont être partis pour 24 heures de réégouttage. Donc déjà, on sera à 48 heures après moulage. Et à l'issue de ces 48 heures, on va démouler, resseller la deuxième face et commencer le processus d'affinage des fromages. Donc ils vont rester en salle là pendant encore 24 heures avant de commencer à partir dans la chambre froide.
Donc ça, c'est ce qui fait la différence avec du fromage industriel. C'est évidemment l'œil du fromager qui fait une bonne partie du travail.
Ah ben voilà, moi c'est tout, c'est à la main, c'est à l'œil. Vous voyez là, le cahier n'est pas toujours le même, mais je vois au poids du moule s'il faut en mettre plus ou moins, suivant la matière grasse qu'il y a dans le lait. Hein, parce que quand les chèvres ont fait les chevreaux, le lait est beaucoup plus gras, beaucoup plus riche, et il faudra moins de matière pour faire un fromage.
Alors ça veut dire aussi qu'il y a des normes évidemment extrêmement précises. Le laboratoire ici est agréé CEE. Il y a des normes extrêmement draconiennes en matière d'hygiène, en matière de conditions de travail.
Donc eh ben, la fromagerie donc, est aux normes CEE, hein, comme elle devrait toute l'être actuellement. Ensuite, on a des autocontrôles qu'on fait nous-mêmes. On a un contrat avec le laboratoire d'analyse de la Creuse. On fait des autocontrôles régulièrement sur le marché. On vient nous contrôler. Et ensuite, eh ben, on a les contrôles de la DSV régulièrement aussi sur les marchés ou sur l'exploitation qui nous disent les choses qui vont ou qui ne vont pas.
Là, c'est le côté nettoyage. Hein. Justement, on parle d'hygiène. Alors tout de suite, Jean-Luc pense nettoyage. D'ailleurs, on peut saluer votre petite collègue parce que sur une journée de travail, le nettoyage représente une grosse partie du boulot.
La moitié du travail, c'est du nettoyage.
C'est-à-dire que, par exemple, sur une journée de 5 heures
2h30, 3h de nettoyage. À savoir qu'un fromage, c'est un moule, et tous les moules sont lavés à la main. Et vous voyez, ce matin, j'ai dû faire pas loin de 300 crottins. Donc, mercredi, elle a gagné le jackpot. 300 moules à nettoyer. Moi, je serai sur un marché, ça ira.
Ah oui, mais faut se répartir les rôles, hein, c'est comme ça. Et puis, quand on est chef, on a des fois des choix, évidemment, tout vu. Donc là, on termine de répartir nos petites bûches.
C'est le même travail que le peintrier. Pour avoir un beau produit en finalité.
Donc là, nos bûches sont prêtes. Alors on va ensuite passer dans notre prochain rendez-vous au côté affinage. On peut simplement dire un mot donc de la version vache. Donc là, le lait, lui, n'arrive pas par le même procédé, c'est-à-dire le procédé de tank pour le lait de chèvre. On fonctionne directement, j'ai envie de dire, du producteur au consommateur. Là.
Voilà, donc à savoir que la salle de traite des vaches se trouve juste à côté de la fromagerie. Donc vous voyez, la salle de traite, on peut la voir par la vitre. On met un grand bac dessous. Et vous voyez, celui-là, c'est la traite donc, d'hier matin et de ce matin. Il a été emprisuré. Donc il ne faut surtout pas le bousculer. Pas donner de coups dessus ou quoi que ce soit.
Donc en tous les cas, on voit que les productions sont assez conséquentes. C'est combien de litres de lait de vache et de chèvre qui sont traités ici sur une bonne semaine ?
Sur une bonne semaine, en ce moment, en vache, on doit être à 1400 litres en moyenne. Et en chèvre, là, on commence à s'occuper un peu des fêtes de fin d'année. Donc, on fait de la tome qu'il faudra affiner au moins 2 mois. Donc là, en chèvre, on doit tourner dans les 1000 litres semaine. Ce qui n'est pas une grosse quantité non plus. Hein.
Non, ça fait pas beaucoup de boulot en plus, donc c'est bien.
Pas beaucoup de boulot, ça, on en reparlera.
Notre quatrième et avant-dernier rendez-vous dans l'univers de la production fromagère. Nous sommes toujours installés ici à la ferme des Vergniaud, puis Malsignat. Nous sommes toujours avec Jean-Luc. On a parlé des premières étapes de la fabrication des fromages.
Voilà, on a vu donc le moulage. Devant nous, on a les fromages qui ont été moulés hier, donc qui ont été retournés une première fois dans le moule et salés une première fois.
Comment on les retourne ? Parce que ça a l'air encore un petit peu mou. On met ça assez à la main, avec un geste technique rapide pour éviter que ça finisse tout sur le carrelage.
Alors, comment on les retourne ? Alors, au début, quand on débute, c'est une catastrophe.
On en démoule 1 sur 2.
On en loupe 1 sur 2, surtout. Donc voilà, c'est très facile. On prend le fromage dans la main. Quand on a de grandes mains, c'est plus facile que des petites mains. On prend le fromage, on retourne. Et alors, voilà comment on en foire un.
On ne fait pas ça, donc. Hein.
Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Je vois Virginie qui rigole, mais de dos, hein, je pense que ça se réglera une fois qu'on sera parti.
Tout se paye. Donc voilà, donc ça, au bout de 24 heures, il est retourné une première fois, et salé. Ensuite, on va le laisser régoutter 24 heures, toujours sur sa table d'égouttage. Le lendemain, il va être démoulé, posé sur une grille avec un tapis, et donc on ressale l'autre face. Et là, il va rester dans la salle encore 24 heures à s'égoutter.
Donc on est à 48 heures effectivement d'égouttage. Et là, ce fromage va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante qui est dans une autre pièce.
Voilà,
où il fait bizarrement un peu plus froid. Hein.
Voilà, la chambre froide. Donc à savoir que la chambre froide, on est actuellement à 12 degrés et 78% d'humidité. Ce qui est, l'humidité est importante aussi. Hein,
donc ça, ce sont les réglementations. Voilà. L'hydrométrie, c'est la température, c'est primordial pour la qualité du fromage.
C'est pas les réglementations, c'est nous, pour nos fromages, pour obtenir ce qu'on veut, c'est nos normes à nous. Je veux dire, chaque fromager, après, fait à sa façon. Voilà. C'est l'hygrométrie et la température.
Et alors là, on sent qu'il y a les odeurs. Autant, voilà, sur les précédentes étapes, on n'a pas du tout d'odeur de fromage. Mais là, les odeurs vraiment se dégagent.
Hein. Voilà, ça commence là. Donc, vous voyez les fromages donc, qui sont passés aujourd'hui dans la chambre froide. Et vous en avez, ça va jusqu'à peu près 15 jours, la production d'une quinzaine de jours.
C'est vrai qu'on va pouvoir en profiter pour parler de traçabilité sur chacun des rayonnages. Il y a un petit papier avec la date de la production et puis un petit code de traçabilité pour vous.
Voilà, nous, alors donc, vous voyez, ces chiffres 11-11, donc 1111, c'est notre numéro de lot qui correspond chez nous au numéro du jour de fabrication et la quantité qui a été faite ce jour-là.
Ça veut dire que vous avez travaillé le 11 novembre, on ne s'arrête pas les jours fériés.
Non, nous, c'est 365 jours par an, donc ça doit faire l'année complète. Et donc, voilà, alors ça c'est la traçabilité, à savoir qu'on a aussi un cahier de production où tout en été, au cas où un jour on a un problème, on retrouvera sur tel jour, voilà ce qu'il y avait comme température et tout ça. C'est de la traçabilité.
Donc là, chambre froide, combien de temps ?
À savoir que le froid dessèche le fromage. Moi, si en finalité je veux des fromages crémeux, ils vont rester peu de temps dans la chambre froide. A contrario, si je veux des fromages secs, ils vont rester plus de temps vu que le froid les dessèche. Et ça va très très vite.
Bon, avant d'être sec comme le fromage, on va peut-être passer en version affinage, nous aussi. On va sans doute changer un peu de température. Donc là, nous sommes dans une autre partie. Donc c'est la version affinage, c'est ce qu'on appelle le haloir.
Alors voilà, on est dans le haloir des fromages de vache. Vous voyez, les numéros de lot suivent toujours les fromages. Donc on a des très vieux fromages, vous voyez, il y en a qui datent du mois d'août. Je vais vous faire goûter.
Les fromages les plus frais sont quand même ceux qui partent les plus vite.
Oui. Mais là, quand on a du stock, c'est qu'on a une grosse production de lait avec une vente moindre. Mais bon, c'est des fromages, je sais que d'ici la fin de l'année, je n'en aurai pas assez.
Donc excellent, hein. Déjà, en passage, je confirme. Donc, mais on mange avec la croûte, pour ceux qui jettent la croûte, pour vous, c'est presque la faute professionnelle.
Mais sauvage. Dans le fromage, tout se mange. Après, bon, je comprends qu'il y ait les gens qui n'apprécient pas et qui vont l'enlever, mais goûtez-le d'abord avec sa croûte. On va prendre sur du 6 octobre. Vous voyez, déjà, il est un peu moins jaune. Il n'y a pas les artisous. Voilà, les artisous, c'est ça, c'est cette poudre.
D'accord.
En fait, c'est les petits acariens qui vont, eux, affiner le fromage.
Ah, ils travaillent pour vous et même pas payés, je suis sûr.
Même pas payés du tout, d'ailleurs. Mais voilà, et les vrais amateurs de fromage, quelqu'un qui trouve un fromage avec des artisous, quand vous avez les amateurs, et eux, ils sont heureux parce que ça se trouve de moins en moins.
C'est un fromage qui a vieilli, c'est un fromage qui a presque une histoire, finalement.
Oui, une histoire, c'est surtout son avenir qui n'est pas évident.
Qui est à court terme, là, visiblement.
Voilà, avenir à court terme. Mais voilà, c'est un fromage qui a pris le temps de se faire et qui a pris le temps.
Et nous sommes toujours, pour cette semaine, dans l'univers de la production fromagère. C'est notre dernier rendez-vous. Déjà, on a bien mangé, hein, pour tout vous dire, entre les deux précédents rendez-vous, avec Jean-Luc, où on déguste, ici, à cette ferme des Vergnaux à Puy-Malsignat, des bons fromages de vache, de chèvre. Alors justement, on va peut-être finir, on va pas faire les rats, on va donner quelques conseils à tout le monde, à ceux qui nous écoutent également. D'abord, on revient peut-être sur le choix des fromages.
Alors déjà, je conseille aux clients de ce qui leur plaît à l'œil, de le prendre. Ensuite, de ne pas hésiter à poser des questions et de demander à goûter. Parce qu'un fromage, il peut être très beau et il peut être très mauvais en même temps. Et surtout, que les gens donnent ce qu'ils aiment au goût, ce qu'ils recherchent au goût. Et nous, par rapport à ça, on va les diriger vers les fromages qu'ils attendent. Quoi.
Alors ensuite, on rappelle l'idée que vieux fromage égale fromage qui pique, fromage acide, amer. Ça, c'est une idée reçue.
Le fromage va être sec. Par contre, il ne va pas être obligatoirement fort piquant. Vous voyez, beaucoup de gens, quand je leur dis sur un marché que c'est un fromage qui date du mois d'août, sont repoussés. Je leur fais goûter et dans la foulée, ils en prennent un, quoi.
Alors ensuite, évidemment, il y a un produit pour une utilité. Vos petits conseils à vous, un bon fromage de chèvre va se marier avec quoi? Comment on le prépare pour qu'il dégage tout son parfum, toute sa saveur?
Bon fromage de chèvre, déjà il se suffit à lui-même. Après vous pouvez l'accompagner. Moi je vous conseille un bon fromage, si vous avez un bon fromage de chèvre frais, vous le mangez sur une tranche de pain d'épices avec un peu de miel. Du miel, la confiture de figues, c'est excellent, confiture de cerises noires comme ils font beaucoup au Pays Basque. Ensuite, chaud en toast. Et les fromages de vache, donc les nôtres, on fait d'excellents fondus avec. On les mange, c'est un fromage de table correct. Et vous pouvez le tenter aussi avec des petits copeaux sur une tarte aux pommes, c'est pas mauvais.
Il faut oser les mélanges, ça veut dire que vous aussi, vous aimeriez peut-être oser. On a envie comme ça de se tenter quelques expériences, peut-être que ça a déjà été fait.
Nous dernièrement, là, on vient de créer un nouveau fromage qu'on appelle le petit bicou. C'est une pâte molle, c'est un fromage à fabrication à peu près comme un camembert, sauf qu'il est à base de lait de chèvre et qui commence à avoir un très beau succès. Et après, on aimerait pouvoir faire un bleu de chèvre que beaucoup de monde tente et peu de réussissent. Et une grosse tome de garde, ce qu'on appelle une tome de garde, c'est une grosse tome un fromage qui est au moins 6 mois d'affinage pour les périodes où, quand la production de lait est excessive par rapport à nos ventes, on puisse faire un gros fromage qui va se garder 5-6 mois en affinage.
Et on les fait découvrir, on donne de bonnes habitudes alimentaires à peut-être des touristes parisiens qui sont moins habitués à ces produits faits comme ça, de proximité.
Alors moins habitués, je vous dirais que les gens qui nous connaissent ne partiront pas sans avoir amené une grosse quantité de fromage avec eux à Paris. Chaque fois qu'il y a des vacanciers, des touristes, on a une très très grosse sortie de fromage, car les gens ne trouvent pas forcément ces fromages chez leur fromager habituel et recherchent ces produits et ces goûts différents à ce qu'ils ont habituellement.
Il y a des goûts authentiques.
Des goûts authentiques, des fromages qui sont faits comme ils étaient faits par les grands-mères dans le temps.
Et ça veut dire aussi que quand on travaille dans le fromage, on n'en est jamais blasé. Quand on est dans ces bons produits-là, on en reste un amoureux quoi qu'il arrive.
Ah oui, moi ça va faire bientôt 4 ans que je suis dans ce métier, c'est une reconversion. Et honnêtement, je viens pas travailler à reculons, au contraire. Non, c'est plaisant. Le fait d'être dans la fabrication jusqu'à la vente au consommateur et l'avoir en direct, honnêtement, moi je rempile quand on veut.